Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans Bouffon.
Ça va bien, Bouffon ?
T'as un truc, Bouffon, à manger par terre.
Littéralement l'impression de bouffer un nuage.
Qu'est-ce qu'on va rechercher dans le plaisir ?
La bouffe.
Tu bouffes ! Tu bouffes !
On continue notre série sur la cantine, ou plutôt sur les plats que la cantine a détruits. Et je suis vraiment content qu'on refasse un épisode parce que c'est une série que j'aime bien. Parce qu'en fait, elle permet de parler sur un temps un peu long d'un sujet en apparence futile et pourtant tellement important, ce qu'il se passe au réfectoire. Et via le prétexte de discuter de tous ces petits traumatismes culinaires, on entend plein de gens, au fil des épisodes, évoquer à leur manière les repas qu'on mangeait à l'école, et ça pose une lumière sur leur importance et ce pourquoi c'est crucial de trouver un moyen de les améliorer. Ça montre aussi qu'on n'était peut-être pas si difficile, mais bel et bien mal nourri à l'école, et pour un repas censé donner des forces pour apprendre, c'est quand même un sacré paradoxe. Et puis, l'alimentation englobe tellement de sujets que c'est dommage de pas profiter de la cantine pour former et transmettre aux plus jeunes. Mais bon, là, je m'égare et on aura sûrement l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes. Je reviens sur le sujet du jour, ou plutôt les sujets du jour, parce qu'on va parler d'épinards et de riolets. Alors, riolets pas tout de suite, mais comme un dessert en fait à la fin, en deuxième partie d'émission, avec ni plus ni moins que le chef de l'Ami Jean à Paris, Stéphane Jégot.
Je me suis basé sur une recette de riolets classique, du lait, du sucre, de la vanille. Là, tu le laisses après tranquillement reposer. Une fois qu'il est froid, tu le casses légèrement et tu incorpores une crème fouettée. Là, ça devient hyper léger, ça devient nuageux, ça devient gourmand.
Mais d'abord, parlons épinard, le légume renier connu pour donner de la force à Popeye, mais c'est aussi celui qui perd 100 fois son volume entre le sachet et la cuisson dans la poêle. Mais surtout, surtout, c'est celui dont a voulu nous parler Manon Fleury. Jeune chef, elle travaille au Mermoz, une adresse pas très loin des Champs-Élysées, mais qui tient plus du resto de quartier que de l'attrape touriste trop chère. Sa cuisine est moderne, maligne et élégante, en un mot, j'adore. Et c'était vraiment un plaisir de parler épinards avec elle, même si je pensais pas vraiment dire ça un jour. Mais d'ailleurs, on n'a pas parlé que épinards, on a aussi parlé cantine en général, cuisine végétale et transmission.
J'avais une maman qui faisait très attention à ce qu'on mangeait, qui allait déjà dans les magasins bio quand on était petit, qui faisait les marchés, qui faisait des produits frais. Donc ça, c'était super important déjà quand on était petit. Après, vers l'adolescence, j'ai vraiment commencé à m'intéresser vraiment à la gastronomie et à la cuisine.
Tu commences à faire à ce moment-là, à cuisiner ?
Ouais, j'ai toujours fait en fait à la maison. J'ai une maman qui m'a toujours laissé faire, qui travaillait et en fait qui nous a toujours laissé libre avec mes j'ai deux frères et qui nous a toujours laissé vachement faire et qui nous a montré en fait, je pense que c'est aussi une question de transmission la cuisine. Elle nous a toujours laissé faire et on se débrouillait tout seul à la maison donc j'ai toujours cuisiné en fait.
C'était quoi le premier plat que tu as fait dont tu étais le plus fier? Enfin, ou en tout cas, tu disais, celui-là, il est cool, même si maintenant, tu l'aimes peut-être un peu moins.
Ah, la première fois, je me suis dit, c'est cool. Je sais même pas. Après, si c'est pour la petite anecdote, pour relier à la famille, un truc que je faisais tous les dimanches, c'est moi qui faisais les crêpes à la maison.
OK.
Voilà. Et je trouvais ça cool à l'époque. Et j'ai toujours dit que si je loupais ma carrière de cuisinière, j'ouvrirais une crêperie en Bretagne.
Ça va comme ratage. Il y a pire.
Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est une bonne reconversion. Voilà, c'est une reconversion. C'est une crêpière en Bretagne.
T'en sers des crêpes ici ? T'as déjà essayé de faire ce truc, genre
jamais.
De refaire le plat
et, mais j'aimerais bien parce que la galette bretonne, c'est intéressant. Le sarrasin, j'adore ça en revanche. Je travaille souvent le sarrasin. La farine de blé noir, c'est super bon, donc c'est super intéressant. Non, j'ai jamais servi de crêpe encore. Mais pourquoi pas une crêpe Suzette en dessert, une galette complète, pourquoi pas hein.
Une galette saucisse en apéro.
On est libre, on fait ce qu'on veut au Mermoz.
Et tu sais que le thème de l'épisode, c'est un peu la cantine, les traumatismes de cantine.
Oui.
Avant de parler de... Je sais que tu as choisi les épinards, tu t'es dit que c'est de ça dont tu voulais parler.
Oui.
Avant de parler des épinards, parlons plus généralement. T'es allée à la cantine quand t'étais petite ?
Je suis allée à la cantine toute mon enfance.
C'était comment ?
Bah ça dépend en fait, ça dépendait les niveaux scolaires. Je me rappelle qu'au primaire c'était vraiment pas mal parce qu'en fait j'ai un vague souvenir mais c'était vraiment une dame qui nous faisait à manger donc je sais pas trop comment c'était et comment c'était géré au niveau de la commune mais c'était plutôt bien. Après au collège ça s'est pas mal détérioré et c'était vraiment pas terrible et je me rappelle à manger essentiellement du pain. Et puis le lycée c'était encore 10 fois pire et ce qui était difficile c'est que j'étais interne au lycée.
Ah ouais,
ça c'était vraiment
matin, midi et soir.
Et en plus de ça j'étais sportive, j'étais en sport études Et je me rappelle de la tristesse de quand on rentrait de l'entraînement et qu'il y avait plus rien dans les frigos et que parce qu'en fait on nous gardait à manger quand on rentrait de l'entraînement. Et je me rappelle, je me disais mais l'enfer quoi, et on peut même pas nous faire je me disais c'est incroyable qu'il y ait même pas des trucs où on peut organiser quelque chose pour des sportifs qui ont juste envie de manger des pâtes en rentrant.
À ce moment-là, toi, t'as pas envie, tu te dis, moi, je sais faire, est-ce que vous pouvez pas me juste donner moi des ingrédients?
Bah, pourquoi pas, ouais, à l'époque, moi, j'avais pas le savoir que j'ai aujourd'hui, mais ouais, j'aurais très bien su faire.
Et pourquoi tu crois que c'est si compliqué? Parce que moi aussi, en fait, j'ai un peu le même truc que toi, quand j'étais à l'école primaire, on avait un cuisinier, enfin, un chef, quoi, qui faisait la cuisine, et dès que ça, enfin, quand CM2 il est parti, c'était remplacé par de la Sodexo.
Ouais.
Et après, c'était pareil collège lycée. Et c'est vrai que j'ai vu la différence de manière radicale, quoi. C'était, y avait des trucs très bons et d'un coup, c'était dégueulasse. Pourquoi c'est si dur de, parce que déjà, c'est vraiment si dur de faire à manger pour autant de gens, pour des enfants?
Oui, je pense que c'est difficile. Je pense que c'est difficile, une fois qu'on augmente les volumes, de faire à manger à tant de personnes. Après, le problème, c'est que tout ça, c'est maintenant tenu par des grands groupes qui ont des budgets à respecter. Et je pense que c'est difficile parce qu'on resserre le budget tous les ans et que tout ça, c'est politique. Hein. Mais après, je trouve que souvent, le problème, c'est qu'on part dans des choses très compliquées. Alors qu'en fait, on pourrait faire des choses très simples, cuisiner par exemple des légumes très simplement. Je disais tout à l'heure, je parlais d'un chou-fleur rôti. Un chou-fleur rôti au four, ça demande pas, c'est pas très compliqué, quoi.
Ouais.
Donc, il y a des choses comme ça, je pense, et plutôt qu'un chou-fleur vapeur insipide, qui a aucun goût et qui sent vraiment le chou-fleur pas bon, quoi. Il y a plein de choses comme ça où, en fait, c'est un enchaînement de choses. C'est-à-dire que c'est des grands groupes qui tiennent le truc. Qui ont du personnel qui n'est pas forcément bien formé et qui ne fait qu'exécuter ce qu'on leur dit et qui voilà, qu'ont pas le savoir nécessaire pour essayer de faire des petits tips qui pourraient être qui pourraient rendre les choses plus agréables, quoi.
Ouais, tout est assez automatisé, donc en fait on leur dit tu mets le chou-fleur dans cette machine là et puis
ouais, je crois que c'est ça en fait, donc un peu compliqué. C'est pareil, on parle des cantines, mais moi je pense que dans toutes les institutions publiques c'est le même problème, notamment les hôpitaux. Enfin, moi je trouve ça aberrant, quoi, de voir ce qu'on sert dans les hôpitaux. C'est
ouais, on essaie de préparer un épisode là-dessus parce que c'est vrai qu'on trouve ça fou que ce soit dans l'endroit où les gens ont besoin le plus de réconfort et on
exactement.
Leur donne le moins. C'est vrai que c'est en plus, alors si l'hôpital, le problème c'est qu'on a besoin de réconfort et on l'a pas, je trouve que le problème de la cantine pour les enfants c'est qu'en fait ça crée beaucoup de traumatismes entre guillemets, évidemment.
Exactement.
Mais ça crée des blocages et combien de trucs moi j'ai redécouvert des années après en disant en fait c'est bon ce truc là
évidemment.
Et du coup, alors, pour parler des épinards, toi c'était un truc qui t'a traumatisé à la cantine?
Ouais. Souvent, parce qu'en plus on faisait un truc, enfin souvent c'était, on mettait les épinards le vendredi avec le poisson. Déjà que le poisson pour les enfants à la base c'est pas facile, alors on mettait du poisson 10 fois trop cuit avec une espèce de sauce infâme. Moi c'est un souvenir de sauce blanche, voilà, et des épinards qui étaient à la crème et qui donnait pas du tout envie, alors qu'il y a rien de meilleur qu'un épinard frais, juste tombé. Je dis pas que c'est facile à cuisiner comme ça dans une cantine, mais un épinard bien assaisonné, c'est délicieux, quoi.
Moi, c'est vrai que je me rappelle d'épinards béchamel, une espèce de truc blanc.
Affreux, exactement.
Des petits points verts, en fait, pas vraiment un épinard entier, c'était.
Exactement.
Et c'est vrai que c'est pourquoi, moi, je connaissais pas j'ai découvert très tard la vraie forme d'un épinard.
Ouais,
moi,
une vraie feuille d'épinard, ouais. Exactement. Ouais.
Et toi, tu le cuisinerais comment alors, l'épinard pour
Alors moi, pour la petite histoire, souvent j'en fais souvent des sauces déjà, parce que le vert de l'épinard est super intéressant, c'est une super jolie couleur. Donc souvent, je fais des sauces vertes à base d'épinards, qui sont des bases pour des risottos.
Ok.
Et je fais beaucoup de risottos à base de céréales. Donc en fait,
si tu remplaces le riz par
par exemple, souvent je fais du petit épeautre ou du sarrasin comme j'en parlais tout à l'heure. Donc souvent ça pourrait être un risotto à base d'épinards. Et après dessus, on rajoute des feuilles d'épinards juste tombées. Et là, on a tout l'épinard. On a à la fois en crème qui peut servir de liant à notre risotto et le petit épinard tombé qui vient par dessus et c'est délicieux. Et moi, le petit tips pour l'épinard, c'est le beurre noisette.
Ok, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un beurre noisette?
Alors, le beurre noisette, c'est un beurre qu'on cuit et qu'on amène à un point où la protéine est cuite et il se dégage une très bonne odeur de noisette.
D'où le nom.
Voilà, et dont on sert, c'est un beurre dont on sert beaucoup en pâtisserie. À la base, par exemple, la fameuse recette des financiers, c'est avec un beurre noisette. Mais moi, je m'en sers pour beaucoup de choses.
Pour le faire, en fait, c'est simplement, c'est, en fait, il faut le faire fondre jusqu'à ce qu'il crépite un peu. Et quand il crépite,
exactement,
c'est là que
il change de couleur. Ouais. Et ils viennent aussi d'une couleur noisette. Et à ce moment-là,
là
il faut le faire refroidir pour pas qu'il, parce que juste après ça, il brûle en fait. C'est juste avant que le beurre parte en fusion en fait.
Et c'est toi, tu vas l'utiliser sur des épinards juste.
Oui, juste tombé, mais je l'utilise pour plein de trucs. C'est un peu mon péché mignon.
Et pour les épinards, justement, c'est juste que tu les fais cuire à la casserole, enfin à la poêle.
Ouais, juste à la poêle, tout simplement, avec 2-3 gouttes de beurre noisette, c'est magique.
Il y a eu d'autres trucs qui t'ont traumatisé à la cantine ?
Oui. Ouais, on en parlait l'autre jour avec mon second, et on disait, par exemple, la salade de fruits. Salade de fruits en boîte, qui est un truc, mais immonde.
C'est fou parce qu'en plus pour le coup les fruits, tout le monde sait que c'est cool. Enfin, je veux dire,
exactement.
Y a pas de doute.
Et puis c'est pas compliqué. Enfin, à un moment donné, et pourquoi ouvrir une boîte Et en fait, on se dit, même en fait, ce qui est terrible dans tout ça, c'est que on va, à force, les enfants prennent l'habitude de manger ça, et on va se dire, on va avoir deux petites espèces de petites coupelles où on sert cette salade de fruits infâme, et on va se dire, on va être content parce que il y a 3 morceaux de cerises, alors que dans l'autre il y en a une, et on va se dire, ah génial, j'ai une coupelle avec 3 morceaux de cerises confites.
Cerises
alors que c'est, ouais, affreuse. Donc en fait, on c'est terrible parce qu'on on s'aperçoit que on peut complètement s'habituer à des trucs qui sont vraiment pas génial.
Ouais, ça crée une norme, quoi. On se dit, ah, c'est ça, les
exactement.
Fruits.
Exactement. Et qu'on peut s'habituer à tout, quoi.
Et c'est vrai que la salade de fruits avec les fruits qui baignaient dans une espèce de sirop bizarre.
Exactement. Qui est beaucoup trop sucré. Ouais. Qui ressemble pas, en fait, ça ressemble pas du tout à des fruits, quoi. Alors qu'une salade de fruits de saison, qu'est-ce que c'est bon?
Ouais.
Qu'est-ce que c'est bon?
Et du coup, ça t'arrive dans ton resto que des gens que tu travailles, toi, des produits un peu, on va dire, traumatisés par la cantine, genre les endives, les épinards, les choux, et que des gens te disent, ah, vous m'avez fait aimer les choux?
Oui. Ouais. Le chou. Qu'est-ce qu'on m'a dit récemment? L'endive, on me l'a déjà dit. L'endive.
L'endive, je crois que c'est la star des.
L'endive, c'est vraiment la star, notamment l'endive cuite.
Ouais.
Et ben, l'endive, je la fais parce que je suis. Pareil, l'endive en jambon, c'est vrai que ça peut être magique, une endive au jambon, mais il faut vraiment que ce soit bien fait, il faut que ce soit gratiné. Et j'avoue que c'est pas facile, enfin, il faut vraiment être un bon cuisinier, je pense. Ou une vraie maman, quoi. Mais. Ouais, mais. L'endive cuite, pour moi, c'est il faut la faire caraméliser. Il faut qu'il y ait un côté vraiment sucré avec un jus d'orange. Ça peut être délicieux. Mais c'est pareil. Ouais, ça, c'est... L'endive, je pense que c'est la reine.
Ouais, c'est vraiment tout. Enfin, les gens sont unanimes.
Après, les choux de Bruxelles.
Ouais, c'est les deux voilà. Qui... Mais les choux de Bruxelles, j'ai l'impression qu'il y a un retour de hype en ce moment.
Ouais, et notamment, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en France, on a un traumatisme du choux de Bruxelles, je pense. Et alors, en fait, j'ai travaillé aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Et les Américains adorent les choux de Bruxelles. Donc, je pense qu'il y a aussi une espèce de vague qui vient des États-Unis et qui fait que.
C'est vrai que c'est parce que moi, c'est de là que je les ai. Quand je suis allé un jour au Texas, il y avait un espèce de food fest et il y avait des choux de Bruxelles frits. Et je disais, ah, putain, c'est trop bien en fait, les choux de Bruxelles.
C'est délicieux. Ouais.
J'ai ramené l'idée à des potes en disant, mais regardez, on peut faire ça. Et c'est vrai que ça doit être ça. Ça doit être une espèce de vague des Américains parce qu'ils sont pas du tout à la cantine. Ils ont du poulet frit.
Et tout ça, c'est drôle parce que. Moi, je trouve qu'en fait, ce qui manque souvent là-dedans, c'est que tu dis chou de Bruxelles frit. Moi, je parlais de beurre noisette. Et en fait, tout ça, ça dépend vachement de. En fait, le problème souvent, c'est que c'est bouilli. Il n'y a pas d'assaisonnement, il n'y a pas de gras. Parce qu'on se dit, on va faire des légumes vapeur, ce sera bon pour les enfants. Sauf que les enfants, en fait, ça leur donne. Enfin, en fait, pour moi, pour faire manger des légumes, il faut que tout soit super bien assaisonné. Il faut qu'il y ait des sauces, il faut qu'il y ait des liants. Il faut qu'il y ait d'amour, quoi. Et c'est, tout ça, ça manque cruellement d'amour.
C'est vrai que le légume n'est pas du tout traité comme un... Il est négligé, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout le traiter comme un aliment à part entière, mais plus comme un truc qu'on est un peu obligé de faire.
Exactement. Et qu'on est obligé de manger, du coup.
Oui. J'ai lu un truc il n'y a pas longtemps, en plus, quelqu'un qui disait, ouais, tous les légumes sont traités comme ça, comme un truc, c'est une contrainte pour tout le monde.
Exactement.
Pour les chefs, même maintenant. Enfin, plus
tout
maintenant.
Tout à fait d'accord.
Mais... Et c'est vrai que même... Bah, moi, il me semble que tu en parles dans le podcast que tu as fait avec Julie... sur à poil, en fait, tu parles d'Otto Lenghi, non?
Oui.
Et c'est vrai que lui, moi, c'est lui en lisant ses livres où j'ai fait, ah, mais en fait, on peut faire plein de trucs avec des légumes, on n'est pas obligé de les faire à vapeur. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on est en train, j'ai l'impression, de redécouvrir.
Enfin,
que les chefs retravaillent depuis un peu plus longtemps, mais j'ai l'impression que le grand public est en train de se dire, ouais, mais en fait, on peut faire retirer des légumes. Quoi.
On peut faire retirer des légumes et c'est facile, en fait. Il n'y a pas besoin d'un grand travail à la maison. Enfin, moi, je trouve ça beaucoup plus facile de se faire des légumes que se faire un poisson à la poêle, quoi. Je trouve ça, souvent, c'est, bah, on met un plat dans le four, on assaisonne, on met un peu d'huile d'olive, un peu de sel.
Et ça marche. Et ce serait quoi pour toi un plat, sans donner la recette, mais un truc que tu dirais, tiens, ce serait bien de faire ça à la cantine, parce que c'est à la fois facile, c'est bon, c'est...
Par exemple, je sais pas, un gratin. Un gratin, ça peut être... C'est assez facile. On parlait de béchamel tout à l'heure, avec une béchamel. Et les enfants, je pense que c'est des choses qui... Tu parlais de réconfort aussi, oui. C'est des choses qui réconfortent. Et un bon gratin, je pense que c'est faisable, quoi. C'est pas des choses... difficile à faire. Après, peut-être plus de sauce aussi, plus de...
C'est vrai que j'ai l'image là qui me vient en tête d'un chef ou d'une chef qui, avec une énorme marmite, qui ferait à manger pour tout le monde. C'est vrai que les trucs mijotés aussi, on a pas.
Exactement. Ah, oh, il y a des petits sautés quand même, non? Je sais pas. Moi, j'avais souvenir qu'il y avait quand même des petits sautés de porc, des trucs comme ça, mais... Mais oui, c'est des choses comme ça qu'il faudrait faire et qui sont, je pense, à faire pour des milliers de gens. Ouais, dans les hôpitaux, c'est en milliers, ça parle mieux, mais... Après, il y a des conditions d'hygiène aussi, mais je pense que c'est des choses en fait qui sont vraiment faisables. Voilà. Donc, tout ça, c'est faisable, mais je pense qu'il faut arriver à toucher les grands, quoi. Il faut arriver à leur mettre une pression nécessaire. Je sais pas si j'ai le droit de le dire tout ça, mais
si, vas-y, bien sûr. Non,
à mettre une pression nécessaire pour faire changer tout ça.
Oui.
Mais du coup, nous, en tant que petits chefs cuisiniers. C'est pas facile d'avoir, je pense, un pouvoir là-dessus, mais ça doit aussi venir de nous, je pense.
T'interviendrais, toi, si on te demandait d'aller dans les cantines, dans les écoles?
Oui, tout à fait. J'aimerais bien le faire. Ouais. Non, je l'ai jamais fait, mais j'y pense, vraiment. Ouais.
Si jamais quelqu'un nous écoute...
Mais surtout voir un peu ce que... Enfin, quand j'aurai un peu de temps, parce que c'est un peu la course en permanence, mais essayer d'aller voir ce qui se fait déjà, parce que je sais qu'il y a déjà plein de choses qui se font. Et notamment plus en province qu'à Paris, j'ai l'impression, parce que c'est plus facile, je pense aussi, de travailler plus ou moins étroitement avec des producteurs des communes environnantes. Et ça, c'est marrant, mais c'est des trucs qu'on a complètement court-circuité avec les grands groupes, c'est-à-dire qu'on fait venir des légumes de je ne sais où, alors que souvent, il y a des gens qui n'arrivent pas à vendre leur production et qui rêveraient de travailler et de vendre tout ce qu'ils ont à vendre dans leur jardin. On doit revenir à des logiques qui sont comme ça, en fait. Aller plus courte. Qu'est-ce que vend le paysan d'à côté? Qu'est-ce qu'il a à me vendre? Et essayer de voir dans les cantines si on ne peut pas faire comme ça, quoi. Donc,
Et pour parler justement de toi, de ta cuisine, toi, tu essayes de faire ça ici, au Mermoz, de vraiment travailler avec des localement?
Ouais, j'essaye. Après, c'est...
À Paris, c'est comme tu disais, c'est plus compliqué à Paris qu'à...
Je pense que c'est beaucoup plus compliqué à Paris qu'en province. J'essaie de le mettre en place, mais c'est pareil, je suis tout le temps dans la course, donc je suis à 50% de ce que je voudrais faire. Donc je travaille avec une maraîchère qui est à côté de Paris, qui s'appelle Élise Rian, Carrière-sur-Seine, qui me fait à peu près 50% de mes légumes. Je travaille avec aussi une maraîchère en Bretagne qui est assez connue des cuisiniers, qui s'appelle Annie Bertin. Et puis avec Terroir d'Avenir qui est donc une entreprise qui a sourcé un peu partout en France des petits producteurs qui font du bon travail. Et donc je reste essentiellement en France, un petit peu en Italie pour tout ce qui est agrumes. Là, j'ai eu des superbes grenades la semaine dernière avec lesquelles on a fait de la mélasse, pour tout ce qui est un peu plus produits exotiques, parce que maintenant... En Italie, on fait du fruit de la passion, de la grenade, des choses comme ça. Mais j'essaye de rester en France.
Merci à Manon de nous avoir accordé du temps dans son emploi du temps serré. Et si vous vous dites « elle a l'air trop cool, je veux en savoir plus sur elle » et je comprendrai que vous pensiez ça, elle a fait un super entretien dans le podcast « À poil » avec Julie Gerbet qu'on mettra en description. Et maintenant, le riolet. J'avoue avoir été surpris quand on m'a dit que le riolet, c'était dégueu et lié à la cantine parce que pour moi, c'est lié au réconfort et à un truc délicieux. Mais j'accepte et allons-y, redorons le blason du riolet s'il faut le faire. Et c'est avec Stéphane Gégaud, le chef du restaurant L'Amigeant, un restaurant à double casquette, connu pour une carte gourmande et généreuse, mais aussi connu pour son riolet gourmand et généreux. Et c'est donc avec Stéphane Gégaud qu'on a parlé riolet.
Ne pas aller à la cantine, c'est désociabiliser l'enfant. Donc, moi, j'ai mes filles à voir la cantine, et ce serait même impensable de dire aux gamines, va pas à la cantine et rentre au restaurant, parce que elles sont juste à côté du restaurant. Ça serait impossible de leur... Non.
Donc tous les midis, elles vont à la cantine?
Tous les midis, bien entendu.
Et vous avez quel souvenir de la cantine quand vous étiez plus jeune?
Moi, je suis pas resté très longtemps à l'école, donc si tu veux, j'ai un souvenir très rapide de la cantine, mais bon, pas vraiment d'un souvenir très élogieux, parce que on avait, c'est des boîtes, c'était une très bonne école, il y avait des gens adorables, mais c'est vrai que la cantine n'était pas spécialement soignée.
Déjà à l'époque, la cantine n'était pas soignée ou...
Oui, mais tu vois, c'est le paradoxe un peu de tout ça, c'est qu'actuellement, là, nous, à travailler avec le Collège culinaire de France, on est en train de creuser un peu tout ça, et on a rencontré des acteurs qui sont dans des cantines, mais qui font un travail de dingue. Ils arrivent avec 3 francs 6 sous, parce que c'est vrai que les budgets de cantine, il n'y a pas de budget, mais ils font à manger de la même façon que nous on fait un restaurant, c'est-à-dire ils achètent des carcasses entières, ils travaillent que des produits frais, ils font vraiment leur dessert, ils se rapprochent pas de l'agroalimentaire, ils sont pas sur l'industrialisation, et ils font à manger pour 600 personnes. Donc moi je pense que ça c'est des héros de la nation ça.
Ça, c'est les cantiniers de quel endroit?
Alors, c'est des différents cantiniers qui sont dissimés dans la France.
C'est des gens qui résistent aux grands groupes.
Oui, complètement. Bizarre. Nous, on est en train de travailler dessus, là. On est en train de voir, même si on ne peut pas les intégrer à titre soit honorifique ou à titre, voire personnel, au Collège culinaire de France.
Et alors, est-ce que vous, il y a un plat qui vous a traumatisé quand vous étiez à la cantine?
Ouais, les épinards.
Les épinards?
Ouais. Tu vois, les épinards, pourquoi? Parce que c'était que de la boîte, mais la boîte de la boîte, et en mode, tu manges de l'eau, et c'était tellement féreux que j'en ai encore le goût dans la bouche, et c'était féreux à un point que c'était, on était presque, à te rendre malade. Ah, j'en ai un souvenir, mais je te dis, je vois encore le truc arriver qui est gris vert, et qui est vraiment c'est du fer que tu manges. Et là, ça rend pas comme Popeye, ça rend pas musclé.
Ouais, c'est pas les épinards qui font du bien.
Ah non, ça c'est clair.
Et il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, quand on a fait un petit sondage pour savoir un peu les plats qui étaient, en tout cas dont les gens avaient un mauvais souvenir, et beaucoup de gens nous ont dit le riz au lait. Moi, ça m'a vachement surpris parce que pour moi, le riz au lait, c'est associé à plutôt mes parents, plutôt mes grands-parents, et quelque chose de très bon. Mais effectivement, il y a plein de gens qui sont traumatisés par le riz au lait à la cantine.
Ouais, parce que souvent, le riz au lait, c'est de la bouillie quelque part. Ou c'est de la bouillie, ou alors c'est du béton. Donc c'est vrai que le riz au lait est un... Et ce qui est drôle, c'est que depuis quelques années, nous on le fait, moi j'ai mis la recette au point il y a 14 ans, on en faisait avec Yves Condebord un riz au lait au caramel, qui pour lui c'était ce côté enfant également qu'on faisait la régalade. Et moi quand j'ai commencé la Mijan, je voulais justement plus le faire le riz au lait, parce que au bout d'un certain temps ça me saoulait. Et puis j'aime pas faire pareil, donc c'était pas un copier-coller de Yves Condebord à la Mijan, donc c'était pour ça que je n'ai pas refait. J'avais créé un dessert aussi très enfantin, très agressif, c'est des pommes au four et pommes poires au four avec des raisins, des abricots, etc. séchés, et une crème cuite là qui descendait, c'est hyper gourmand. Et arrivé un moment, ça avait pris tellement d'ampleur le truc que j'arrivais plus à fournir, pour tout te dire.
Ah oui.
Ouais. Alors je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui peut être, on va dire, gourmand, régressif, enfantin, qui peut arriver à parler à tout le monde et en même temps donner ce côté presque généreux et dire voilà, oh là, ça arrive après une dégustation, non, c'est pas possible. Et aussitôt que tu vas crocher dedans, tu dis waouh. Et donc j'ai mis ce riz au lait au point là, et maintenant il y a 14 ans. Alors ça, je me suis basé sur une recette de riz au lait classique, du lait, du sucre, de la vanille. Là, tu le laisses après tranquillement reposer. Une fois qu'il est froid, tu le casses légèrement et tu incorpores une crème fouettée. Là, ça devient hyper léger, ça devient nuageux, ça devient gourmand. Et à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est justement mettre ces petits caramels au beurre de micelle, qui, moi, je suis breton, donc on a toujours ce caramel façon chichi, quelque part. Les chichis, c'est chez nous, à Quiberon, c'est vraiment un bonbon traditionnel. Donc là, ce caramel au beurre de micelle va emmener titiller les papilles et va emmener ce côté salin qui va réveiller les choses. Et à côté, j'ai mis ce côté croustillant avec la nougatine, qui est des amandes effilées qui sont torréfiées au beurre de micelle avec une pointe de sucre cassonade. Il y a des noisettes, il y a des pistaches, il y a des noix. Et je suis parti sur l'idée de la fête foraine, où tu as ce type qui tourne, ces noisettes ou autre chose. Et il y a ce côté caramélisation. Là. Donc voilà, je suis parti là-dessus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est l'orchestration, comment tu vas le faire.
C'est vrai qu'il est servi, il arrive dans une énorme jatte et on d'abord il y a une assiette avec les de mémoire parce que je suis déjà venu manger chez vous et je l'ai mangé ce fameux riz au lait et il arrive avec d'abord il y a des petits condiments dedans et puis en fait ils sont recouverts du riz au lait.
Alors c'est une mauvaise mémoire. Alors, non mais tu as à moitié raison. Okay. Donc c'est déjà pas mal.
Ça me rassure.
Non, c'est pour tout, tu vois, donc ça arrive dans un alors le bol est choisi volontairement, c'est un bol de cantine. Mm-hmm. Voilà, c'est un vrai bol de cantine avec une grande cuillère en bois. À côté de ça, tu as des verres de cantine, où là, tu as le caramel au beurre de micelle et tu as également la nougatine. Et après, chacun, justement, va à sa guise. Il y en a qui aiment avec les deux, il y en a qui aiment sans, il y en a qui aiment avec un et avec l'autre. Et après, tu as ce côté partage et ce côté régressif enfantin. Et quand, justement, tu l'emmènes au milieu de la table, tu es dans l'obligation de partager. Et c'est surtout ça qui est important.
Oui. Ouais.
Alors, c'est vrai que tu te retrouves des fois avec des personnes qui ont traversé la moitié de la planète, qui viennent uniquement pour le riolet. Ou t'as d'autres qui se pointent et puis qui sont en train de manger leur cochonnaille et ils sont tellement en train de discuter, tellement tout ça à envoûter les choses, que t'as le voisin, goûte et il se goûte sans se connaître et puis ça casse des frontières, ça casse des barrières et ça illumine tout le monde. C'est ça qui est intéressant dans ce dessert, c'est d'arriver justement à réunir entre le passé, le présent et réunir les gens simplement.
Oui, c'est vrai parce que les tables sont serrées, il y a des grosses quantités de riolets qui arrivent, donc les gens partagent entre eux parfois, enfin, même entre tables.
Des grosses quantités de riolets. Hein. Enfin, si je t'écoute avec la vision que tu es en train de me mettre, ne croyez pas et n'écoutez pas, c'est pas des wagons de riolets.
Non, pas des wagons, mais quand
c'est
même, on sort.
Moi, je me souviens de.
Bien sûr, mais moi, je me souviens sortir d'un repas déjà copieux et d'avoir ce riolet et il est extrêmement bon, il y en a beaucoup. Enfin, c'est une qualité, hein.
C'est justement là, tu vois, le regard, ce côté opulent, généreux et gourmand, c'est pas pour mettre beaucoup de riolets, bêtement, ça n'a strictement rien à voir. C'est, comme on disait tout à l'heure, c'est l'orchestration de comment on a mis en scène ce riolet-là. J'ai mis en scène ce riolet-là pour une raison précise, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est pour aller sur le partage. Et quand tu arrives après une dégustation où tu vas faire 10-12 plats, où normalement tu es sur des milliardises, des petits choses là, tu as le riolet qui arrive et tu dis « Oh non !» Et finalement, le côté enfantin, le côté généreux et le côté gourmand, fait en sorte, tu vas dedans. Et là, ça te fait une régression et tu retournes. Et tu ressors de là, t'es tout bien, tout simplement.
Et vous racontez même que les gens le partagent entre tables, même sans forcément être de la même table.
C'est ce que je te disais, voilà, c'est ça. Et tu peux venir la chercher également et te faire un riolet en amoureux avec, en tête à tête.
Juste ça.
Ouais.
Et c'est vrai que vous le faites aussi à emporter.
Ah oui, tout à fait.
Vous racontez que vous aimez bien imaginer les gens le manger chez eux aussi.
Ben oui, parce que je trouve que c'est quand même intéressant que la personne. Donc, on a mis un packaging très simple et justement pour que les gens puissent avoir à la maison leur service, leur vaisselle et qu'ils puissent composer justement les choses. Qu'ils puissent composer les choses de façon vraiment généreuse et gourmande, comme au même titre qu'au restaurant.
Et aussi, j'avais entendu que vous disiez que c'est pas la peine d'avoir un riz rond particulier, n'importe quel riz rond marche
très bien. C'est un riz rond, pas n'importe quel riz rond, c'est un riz rond classique. C'est un riz rond classique et c'est un riz rond vraiment de base. Parce que justement, il ne faut pas avoir un riz compliqué. Je pense que cette recette, c'est une recette enfantine et il faut rester vraiment dans cette approche. Et il y a peu de gens qui arrivent à le faire alors que c'est d'une simplicité monstrueuse parce que les gens veulent compliquer quelque chose de simple et quelque chose d'enfantin.
Donc vous encouragerez les gens à essayer chez eux de le faire simplement.
Mais la recette, elle est sur le net depuis que le net existe.
C'est vrai que ça vous dérange pas de partager justement la recette?
Bien sûr que non, au contraire. Moi j'ai du riz au lait, je pense, si je te dis pas de bêtises, de mémoire, d'à peu près dans 10 pays. Où tu as le riz au lait, la Mijan, ça va de Thaïlande, en Israël, en passant par la Chine, en passant par le Japon, les États-Unis, Maroc, l'Algérie, donc tu vois, la France bien entendu. Et c'est ça aussi qui est génial, c'est que les types viennent, des fois il y en a qui m'appellent, on a fait ça, on n'a pas réussi, mais ça, regarde, et tout est sur le net, tout, les vidéos, tout, au contraire, c'est ça qui est génial.
Et je sais que votre nom est souvent associé au riolet, mais aussi au partage, à la transmission, par exemple vous travaillez beaucoup avec le Refugee Food Festival.
Oui, tout à fait, mais donc je travaille avec le Refugee Food Festival, on était avec eux dès le départ, quand ils sont nés, oui, on s'est mis en collaboration, en complicité, parce que je pense que c'est important, si tu veux, d'arriver à faire transmettre notre métier, et surtout que quand il y a des personnes dans des situations compliquées, à se servir de ce métier pour pouvoir se réinsérer dans la société. Et c'est vrai qu'on a pris le parti de ne pas mettre le mouchoir sur la merde, pour te dire simplement les choses, mais te donner vraiment une pelle pour creuser vraiment le puits et non pas simplement les abreuver d'une bouteille d'eau et après de les oublier ou de les laisser là dans un coin. Donc c'est pour ça que c'est important la transmission là. Alors le riolet est à la résidence parce que la résidence était Grain de Contrôle à Charolais, donc à Gare de Lyon. Et ce qui est important justement, c'est ça, c'est cette transmission et ce respect justement de la gastronomie. Parce que le mot gastronomie quand tu es dans cette situation est hyper important parce qu'on en transmet des codes gastronomiques pour qu'ils puissent se réinsérer dans la société avec des vraies valeurs gastronomiques. Et de là, ça découle à beaucoup de choses, à un regard, à une pensée, à une vision, et surtout à se sortir d'une certaine situation merdique, tout simplement. Parce que les grands mots, c'est bien beau, mais la réalité, elle est là. Donc,
Et pour parler justement aussi de transmission de gastronomie, je trouve, pour revenir sur le sujet de la cantine, est-ce que vous pensez pas que le fait que la cantine aujourd'hui soit dans 90% des cas bâclée et que les enfants, ça laisse un peu les dégoûter, ça gâche un peu cette transmission et ça gâche un peu la vision de la gastronomie que les jeunes peuvent avoir?
Disons que c'est vrai que c'est une complexité, mais le problème, c'est que tout est assis sur une manne financière. Donc, tant qu'on n'aura pas compris qu'on n'est pas obligé de centraliser pour faire les choses, qu'on peut individualiser les cantines, et que vraiment responsabilité chaque personne dans les cantines à faire bien, je pense que c'est faisable. La preuve, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a identifié plusieurs personnages dans la France qui, eux, justement, sont pas centralisés, sont individualisés, et d'ailleurs arrivent avec du locavore à faire marcher leur cantine pour nourrir. Mais ils nourrissent 600 personnes quand même. Alors, je vous invite à aller sur le Collège culinaire de France et vous avez tous les renseignements de tous ces héros nationaux, parce que je pense que c'est les vrais héros, parce que justement ils transmettent le goût, ils transmettent justement cette culture gastronomique qu'on a en France.
Et c'est vrai qu'en plus la cantine peut aussi aider à faire revivre l'agriculture locale, parce qu'évidemment nourrir 300 enfants
bien avec du local, nourrir 300 ou 600 enfants avec des produits locaux et communiquer sur ces produits locaux, inévitablement le dimanche je restais devant la PlayStation, le gamin il a dit tiens on est allé voir ce qu'on a mangé. Parce que ça fonctionne, parce que nous, on le fait à titre vraiment au restaurant, bon, comme des microbes à tête d'épingle. Mais quelque part, on sait que c'est sensible. Moi, j'ai ma fille qui a 20 ans, j'ai des gamins qui venaient, ils avaient 5, 6, 7 ans, ils pensent encore à ce qu'ils ont mangé. Et régulièrement, t'as les gars, tiens, on se rappelle ce qu'on a mangé et tout. Les gamins, ils ont 20 ans. Toi, 20 ans, ils ont autre chose à foutre que penser à la mijan.
Ouais. Merci à Stéphane Jégo, que vous pouvez retrouver à la mijan. Si vous avez un jour l'occasion d'y aller, je vous conseille de le faire. Il a aussi ouvert une cantine au Ground Control près des Champs-Élysées à Paris. Merci aussi encore à Manon, que vous pouvez retrouver au Mermoz. Je vous conseille aussi vivement d'y aller. Je reste encore sous le choc et triste pour tous ces gens qui se refusent de manger du riz au lait. Mais bon, je pense que je vais m'y faire, je vais m'habituer. Alors, si je peux faire un peu ma pub, j'ai posté une recette de riz au lait sur ma chaîne YouTube qui n'est pas très compliquée à réussir, promis. On vous mettra le lien dans la description. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et pourquoi pas mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'était Bouffon, une émission de Nouvelles Écoutes que je présente moi, Guillaume Malissen, en personne. Toutes les infos et adresses évoquées durant l'épisode sont à retrouver sur le site de Nouvelles Écoutes, nouvellesécoutes.fr/bouffon, et sur notre carte Mapster. On est aussi sur Twitter, Bouffon NE, et pareil sur Instagram. Cet épisode a été enregistré par Ashley Tola, il a été réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. La production et la coordination, c'est Laura Cussard qui s'en occupe, et il a été monté et mixé par Thibaut Delage au studio de l'arrière-boutique. Parlez-en autour de vous, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. À la semaine prochaine !